À propos de la situation à Gaza, le président français a appelé hier les Européens à durcir leur position contre l'État hébreu s'il ne desserre pas son étau sur la bande de Gaza. Des propos qui ont provoqué la colère du gouvernement israélien. Le ministère des Affaires étrangères a accusé le président français d'être en croisade contre l'État juif. Le Royaume-Uni bannit ce week-end les cigarettes électroniques jetables. L'interdiction entre en vigueur ce dimanche. La Belgique et la France prohibent déjà la commercialisation de ces produits, accusés de rendre les jeunes accros à la nicotine et de nuire à l'environnement. En Suisse, le Parlement discute d'une telle interdiction, déjà en vigueur dans plusieurs cantons. L'armée nigériane a annoncé hier avoir tué plus de 60 djihadistes, dont une figure clé du groupe Boko Haram, lors d'opérations aériennes et terrestres menées dans le nord-est du pays. Cette région est l'épicentre d'une insurrection islamiste depuis 2009. Dans le Lütschental, la rivière Lonza s'écoule depuis hier sur toute la longueur du cône d'Ebouli à Blatten. En aval, le barrage de Verden se remplit à nouveau. Il avait été vidé par mesure de précaution en cas de lave torrentielle. L'ouverture des vannes du fond permet de vidanger le réservoir de manière contrôlée. L'eau, en revanche, contient trop de sédiments pour être envoyée dans les turbines pour produire de l'électricité. Et Karine Keller-Souter se dit de son côté bouleversée par l'étendue de la catastrophe dans la vallée valaisanne. La présidente de la Confédération s'est rendue hier sur place pour assurer les sinistrés du soutien du Conseil fédéral. En tennis, le tenant du titre et numéro 2 mondial, Carlo Alcaraz, s'est qualifié hier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros après 3h14 de jeu contre Damir Dzumur. L'Espagnol a dû jouer une quatrième manche pour battre le Bosnien. Carlos Alcaraz retrouvera au prochain tour l'Américain Ben Shelton. Une nuit dans l'ensemble assez claire, du soleil le matin avec quelques voiles nuageux en altitude, cumulus sans montagne. L'après-midi, averses et orages isolés sur le Jura et les Préalpes qui pourront éventuellement s'étendre dans les régions environnantes du plateau. Il fera entre 13 et 30 degrés en pleine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Salut, moi c'est Ouma et je suis journaliste scientifique. L'autre jour, au Muséum d'histoire naturelle de Genève, j'ai rencontré un œuf de dinosaure qui parle.
C'est moi, l'œuf de dinosaure qui parle. Et je dis des trucs ultra stylés. J'ai convaincu Ouma de faire un podcast sur moi. Enfin, sur les dinosaures.
Bon, l'œuf, on s'était mis d'accord. C'est moi qui fais la promo.
Ok, ok.
On t'emmène découvrir des fossiles géants, des paléontologues et des scientifiques qui vont répondre à toutes nos questions.
Quoi de neuf dino ? C'est un podcast RTS en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
Retrouve les 6 épisodes sur l'application Play RTS et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.
De nuit comme de jour, RTS Première.
CQFD.
La colonisation des Amériques, vaste histoire avec des chapitres pas toujours très reluisants. On sait notamment que les colons ont apporté des maladies qui n'étaient pas présentes sur le continent américain. Bonjour Anne Bécher.
Bonjour.
C'est notamment le cas de la lèpre. Enfin, c'est ce qu'on croyait jusqu'ici.
Bon, c'est pas faux, mais c'est incomplet, puisque la lèpre y était déjà. Alors la clé du mystère, c'est qu'il y a lèpre et lèpre. Alors on vous dit tout ça, on vous explique tout ça dans un instant.
Ensuite, notre grand invité de ce vendredi s'appelle Edouard Mitchell. On va beaucoup parler de biodiversité. Sarah Dirène, bonjour Sarah.
Bonjour Stéphane, oui, et de son effondrement dû à la fragmentation des habitats, à la pollution, pollution lumineuse également, aussi à cause des espèces invasives. On en parlera avec le directeur du laboratoire de biodiversité du sol. Ursula Neuchâtel, Edouard de Mitchell, et il nous dira si, si parler d'écologie, évoquer des faits scientifiques est finalement un acte militant pour un scientifique.
On va garder le suspense et on va tout d'abord évidemment vous dire bonjour Edouard Mitchell, bonjour, bonjour, bienvenue dans CQFD.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Edouard Mitchell, ça pourrait être le nom d'un personnage de roman, de film, j'adore, oui. Mais franchement c'est la classe, hein, le nom que vous avez. Vous êtes de quelle origine d'ailleurs ?
Ah, je suis un hybride. Mon père britannique, d'où le nom, enfin les noms même, l'orthographe d'Edouard aussi. Du côté de ma mère, suisse, moitié roman, moitié alémanique.
Donc d'accord.
J'ai même une lourde descendance du côté alémanique. Bon, ça serait peut-être assez pour une autre émission.
D'accord. Et l'anglais, du coup, vous le maîtrisez parfaitement alors ?
Oui, suffisamment en tout cas pour mon travail. Ouais, ouais.
En tout cas, on se réjouit de passer une grande partie de l'heure à venir. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. On vous retrouve après notre séquence actualité que voici. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices. Ravi de vous accueillir dans CQFD.
CQFD, votre émission de science et de santé. Stéphane Gabiou.
Et c'est donc avec un peu d'histoire des infections qu'on commence tout ça. Une nouvelle étude remet en question l'idée selon laquelle la lèpre est une maladie introduite dans les Amériques au cours de la colonisation européenne. Anne Bécher.
Oui, on a longtemps dit que la lèpre est une maladie qui a été introduite aux Amériques par les colons européens. Ce qui n'est pas vrai, mais pas faux non plus, vous allez comprendre. Selon une étude parue dans Science, la lèpre était déjà présente avant l'arrivée des colons. Seulement voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi ? Parce qu'il existe en réalité deux mycobactéries responsables de la lèpre. La première, c'est Mycobacterium leprae, et la seconde, c'est Mycobacterium lepromatosis. Et si, en effet, la première semble être arrivée sur le continent américain avec la colonisation européenne, eh bien, la seconde, M. lepromatosis, eh bien, on ne la connaît que depuis 2008, et c'est elle qu'on trouve sur le continent américain, bien avant l'arrivée des colons.
Bonjour Charlotte Avanzi.
Bonjour.
On vous retrouve au Colorado puisque vous êtes à la tête d'un laboratoire spécialisé en épidémiologie génomique de la lèpre, justement, à l'Université d'État du Colorado. Vous avez, soit dit au passage, fait votre thèse sur la lèpre à l'EPFL à Lausanne. Vous êtes co-autrice de cet article. Anne vient de nous parler de ces deux sortes de bactéries de la lèpre. Il y a la Mycobacterium leprae, si j'ai bien retenu, et la Mycobacterium lepromatosis, j'ai bien retenu, Anne.
Oui, je crois juste. Que c'est...
Et la deuxième, justement, on ne la connaît que depuis 2008, vous confirmez, Charlotte Avanzi ?
Oui, alors vous avez raison, Mycobacterium lepromatosis, c'est une bactérie qu'on a découverte très récemment, donc en 2008, chez un patient au Mexique, alors que l'autre bactérie, Mycobacterium leprae, c'est une bactérie qu'on connaît depuis la fin du 19e siècle environ. Mmh. Donc c'était assez inattendu et surtout vraiment surprenant que cette bactérie ait réussi à se cacher sous notre nez pendant si longtemps.
Ça veut dire que toutes les lèpres connues jusque-là étaient attribuées à la première, donc à cette Mycobacterium leprae?
Oui, effectivement, en fait, c'est la bactérie qu'on considère être responsable de la majorité des nouveaux cas. Donc, il y a environ 200 000 nouveaux cas de lèpre par an dans le monde. Elle est présente sur tous les continents, alors que Mycobacterium lepromatosis, elle est plutôt présente sur le continent américain, mais en très faible proportion par rapport à Mycobacterium leprae.
Alors, elles sont proches comme des cousines, ces deux bactéries, sur le plan microbiologique et génétique ?
Alors ouais, génétiquement elles sont assez proches, mais il y a quand même quelques différences qui nous permettent de les identifier et de les caractériser. Par contre, sur le plan microbiologique, elles sont assez identiques. Donc en fait, il faut qu'on regarde l'ADN pour pouvoir les différencier.
Pour les distinguer, ouais. Si on est infecté par Mycobacterium leprae, donc la plus commune, je veux dire celle qu'on connaissait avant, ou lepromatosis, on jongle un peu ce matin, donc celle qu'on connaît depuis 2008, est-ce que ça se manifeste différemment sur le plan clinique? Donc on présente d'autres symptômes, c'est différent comme maladie?
Alors c'est une super question et la réponse malheureusement est non. Donc actuellement, le diagnostic de la lèpre, il se fait principalement sur le plan clinique, donc un médecin qui va détecter les signes. Et malheureusement, ces deux bactéries, on peut pas les différencier par rapport aux signes cliniques. La lèpre, elle se manifeste sur différentes formes et toutes les formes, en fait, elles peuvent être causées par l'une ou l'autre ou voir les deux ensemble. Et on parle alors de co-infection dans ce cas-là.
Ouais. on peut être atteint par les deux à la fois. Alors, pour revenir à votre étude, vous avez étudié les analyses ADN d'habitants ancestraux du continent américain avant l'arrivée des colons. Et c'est là que vous avez découvert les traces de la présence de cette bactérie, l'hépromatosis, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée cette découverte?
Oui, alors en fait, mon laboratoire, il s'intéresse à comprendre d'où viennent les bactéries qui causent la lèpre en utilisant principalement leur ADN. Le problème, c'est qu'on peut pas cultiver les bactéries, Mycobacterium leprae et Mycobacterium lepromatosis, on peut pas les cultiver au laboratoire. Donc notre seule façon de récupérer de l'ADN, c'est d'utiliser des échantillons cliniques, donc des échantillons de patients, ou de récupérer l'ADN sur des restes humains comme des os ou des dents. Grâce à ces méthodes, on a déjà récupéré l'ADN de Mycobacterium leprae sur plusieurs échantillons anciens en Europe, ainsi que sur des échantillons modernes, et on a réussi à pointer l'origine de Mycobacterium leprae entre l'Europe et l'Asie. Donc c'est une vaste région, mais c'est quand même assez délimité. Alors que pour Mycobacterium lepromatosis, ça a été une grande question depuis 2008. D'où vient cette bactérie? On n'a jamais trouvé d'ADN ancien, en tout cas sur les restes humains en Europe. Et cette bactérie, elle avait plutôt l'air d'être présente sur le continent américain. Et pas trop ailleurs. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à penser que peut-être son origine était aux Amériques. Mmh. Et il y a 5 ans, j'ai reçu un email de Nicolas Raskovan, qui est le dernier auteur de l'étude, qui est aussi le responsable de l'unité de paléogénomique microbienne à l'Institut Pasteur à Paris. Et Nico, lui, s'intéresse aux maladies infectieuses qui étaient déjà présentes aux Amériques avant l'arrivée des colons et bien sûr leur évolution dans le temps. Et donc, lui, il avait accès à des ADN anciens, et en cherchant ces pathogènes, il a découvert des fragments d'ADN de Mycobacterium lepromatosis. Et suite à ça, on a essayé de comparer ces ADN anciens avec des ADN plus modernes qui infectent aujourd'hui les patients aux États-Unis, au Mexique. On a essayé de récupérer des échantillons au Brésil, au Paraguay, en Guyane française. Donc, tous nos collaborateurs s'y sont mis. Le but, c'était de trouver le maximum d'échantillons positifs. Et en fait, c'est comme ça que cette collaboration, elle a commencé. Donc, il y a déjà un petit bout de temps.
Donc, oui, cette lèpre était là, ce type de lèpre était là avant. Donc, géographiquement, la présence de cette forme de lèpre, elle s'étale un peu du nord au sud du continent américain. C'est ça?
Oui, exactement. Donc Nico, il l'a d'abord trouvé dans l'Ouest canadien. Ensuite, Maria, qui est la première auteure et doctorante de Nico à l'époque, l'a identifié en Argentine. Donc là, on a vraiment les deux extrémités, le Canada et l'Argentine, qui suggèrent que la bactérie était déjà présente sur tout le continent.
Donc, M. lepromatosis circulait déjà au sein des populations humaines du continent américain. Ça, c'est établi plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens. On arrive à dater ça aussi précisément?
Oui, alors on utilise la datation par radiocarbone des restes humains qui nous permettent en fait de savoir l'âge de ces os ou de ces dents. Et en fait, dans notre étude, on a calculé que les échantillons qui provenaient du Canada et d'Argentine, c'était des échantillons qui avaient plus de 1000 ans. Donc c'est des personnes qui étaient atteintes de Mycobacterium lepromatosis, donc qui avaient la lèpre il y a plus de 1000 ans, donc bien avant l'arrivée des Européens.
Donc cette forme de lèpre, Mycobacterium lepromatosis, on sait qu'elle affecte aussi certains animaux comme les écureuils roux d'Angleterre et d'Irlande, par exemple. Est-ce que vous savez si c'est également le cas chez les écureuils américains?
Alors, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé l'hépromatosis chez les écureuils américains ou un autre réservoir animal aux Amériques, en tout cas. On sait que Mycobacterium leprae peut infecter les tatous aux États-Unis et également dans le sud américain, et qui peuvent transmettre la bactérie aux humains. Donc, on suppose qu'il peut y avoir un réservoir animal pour lepromatosis, mais on ne l'a pas encore trouvé, mais on s'y intéresse.
De manière plus générale, Charlotte Avanzi, c'est l'histoire, la propagation, les prévalences de cette maladie qui vous occupe beaucoup depuis quelques années déjà. Alors, j'ai une dernière question avec l'arrivée des colons. On a aussi et malheureusement assisté au trafic d'esclaves venus du continent africain. Est-ce que la science actuelle peut analyser la circulation d'une forme ou d'une autre de bactéries de la lèpre dans une histoire qui est finalement aussi tragiquement dense, où les interactions entre les humains étaient tellement chaotiques. En gros, si je pose la question toute go, c'est qui a infecté qui et comment est-ce que tout ça a voyagé? Est-ce qu'on a assez de recul encore pour parler de ça?
Ah oui, et là encore, on va utiliser l'ADN. Et c'est, en fait, on le fait pas que pour la lèpre, on le fait aussi pour d'autres maladies infectieuses, comme la peste, par exemple. Pour la lèpre, on en a parlé il y a quelques minutes, M. lépré a été introduite par les Européens sur le continent américain. Mais si on regarde les souches qui circulent en Amérique du Sud, par exemple, on voit qu'elles sont très, très proches de celles de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on suppose qu'elles ont été introduites depuis l'Afrique entre le 16e et le 18e siècle, justement, pendant ce trafic d'esclaves. De la même façon, on a montré récemment au Suriname qu'il y avait une souche qui circulait qui est d'origine asiatique et qui a sûrement été introduite suite à l'afflux de travailleurs asiatiques au 19e siècle qui venaient au Suriname pour travailler dans les plantations. Et pour les promatosis, on repart dans l'autre sens parce qu'on retrouve cette bactérie dans les écureuils, dans les îles britanniques aujourd'hui. Et on ne savait pas trop, en fait, jusqu'à maintenant, qui avait infecté qui. Est-ce que ça venait des écureuils en Amérique ou plutôt de l'Amérique aux écureuils? Et donc l'étude, elle montre que la souche ancestrale, donc c'est-à-dire que l'ancêtre de la souche qui circule chez l'écureuil, elle est américaine. Donc on ne sait pas si elle a été transportée directement du continent américain aux îles britanniques ou en plusieurs étapes. Et surtout, le plus important, c'est qu'on ne sait pas quel vecteur est impliqué. Est-ce que c'est un humain qui a transporté cette bactérie? Est-ce que c'est un animal? Donc on espère pouvoir résoudre ce mystère dans les futures études. Afin de mieux comprendre les mécanismes de transmission de cette bactérie.
Vous êtes des enquêteurs, effectivement. Merci beaucoup, Charlotte Avanzi. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un laboratoire spécialisé en épidémiologie génomique de la lèpre à l'Université d'État du Colorado. Vous étiez en direct du Colorado. Merci d'être... Vous êtes resté réveillé, c'est ça? Il est quelle heure maintenant chez vous?
Deux heures et quart.
Vous allez vous coucher, là?
Exactement.
Bravo, on vous applaudit. Merci pour l'effort, c'est une belle nuit. Merci beaucoup Charlotte Avanzi.
Merci beaucoup.
Au revoir. En bref, Anne, les chats domestiques peuvent distinguer les humains familiers des inconnus grâce à leur odeur.
C'est une étude japonaise qui l'avance dans la revue PLOS ONE. Et pour faire cette distinction entre humains familiers et inconnus, eh bien, ils adaptent leur reniflement en utilisant soit leur narine gauche, soit leur narine droite, selon le type d'odeur auquel ils sont exposés, mais aussi, en fonction de leur propre personnalité.
On en sait un peu plus sur la mort violente du pharaon Ramsès III.
Oui, pour rappel, en 1820, on découvre un complot fomenté au sein du harem royal dans un papyrus judiciaire de plus de 5 mètres de long. Il est question d'un procès pour haute trahison impliquant Tiyi, l'une des épouses secondaires du pharaon. Selon les textes, cette femme ambitieuse souhaitait voir son fils Pentahour accéder au trône d'Égypte et pour y parvenir, elle a recruté de nombreux complices parmi les serviteurs du palais et même le médecin personnel du pharaon. La momie de Ramsès III a été soumise à des examens, puisqu'elle a été trouvée entre-temps, des examens de tomodensitométrie et à des analyses ADN. Et bien, conclusion, le pharaon avait eu la gorge tranchée jusqu'à l'os, et la momie hurlante et mal emballée en signe de disgrâce retrouvée près de lui est celui du fils de Tiyi, celui-là même qu'elle rêvait de mettre sur le trône.
Et enfin, des grêlons géants sont tombés au Texas.
La saison des orages et des tornades atteint son pic d'intensité au mois de mai aux États-Unis. Et c'est donc la haute saison pour les chasseurs de tornades qui affluent dans la Tornado Alley, la vallée des tornades, où les orages de grêle sont courants cette saison. Surprise, le diamètre de grêlons géants trouvés au sol est compris entre 12 et 15 cm. C'est une très grosse paume de main en somme. Il s'agit de l'une des chutes de grêle les plus impressionnantes jamais tombées au Texas, sans pour autant battre le record national qui affichait des grêlons de 20 cm en 2010 au Dakota du Sud.
Merci beaucoup Anne Bécher. Dans un instant, on retrouve notre grand invité de ce vendredi, Edouard Mitchell. Vous êtes directeur du laboratoire de biodiversité du sol à l'université de Neuchâtel.
Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu trop laissé parler la petite voix dans ma tête. Oh non, encore elle. C'est difficile de pas l'écouter quand toujours au cœur du chaos que je sens mon cœur vibrer, mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer, jouir d'un désert et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver. Faire mal avec plein pour tout recommencer. Oh non.
c'est pas vrai. Je suis au creux de l'ouragan, peu importe où je vais. Oh non, comment faire? J'ai, il me semble, un certain talent pour tout foutre en l'air. Je suis des chefs qui recommenceront 10 fois avant d'apprendre à marcher droit. C'est toujours au cas au cas où que je sens mon cœur vibrer. Mélanger mes rêves et ma réalité. Non, je n'ai pas peur, je vais tout abîmer. Jouir de mes erreurs et tout recommencer. Me perdre, je ne peux l'éviter. Confondre, je t'aime et je suis désolée. J'attends les sirènes qui viendront me sauver. Faire parler mes peines pour tout recommencer. Je cherche la porte de sortie, loin du trou noir. Si le chaos t'envahit, qu'il est trop fort, ferme les yeux et souris encore et encore, encore et encore. C'est toujours au cœur.
Princesse K.O., nouvel extrait du premier album de la chanteuse suisse qui s'appelle Lyora, intitulé La Favorite. Elle jouera cet été au bord du lac Léman. Ce sera le 16 juillet au Montre Jazz Festival.
La science et la santé sur RTS Première. C'est CQFD.
C'est un homme de conviction que nous recevons aujourd'hui, Sarah Dirène, puisque Édouard Michel, directeur du laboratoire de biodiversité du sol à l'université de Neuchâtel, s'intéresse non seulement à des minuscules bestioles du sol, mais aussi à la préservation de la biodiversité dans son ensemble.
Oui, ben vous le savez peut-être parce que tout est lié. Si son objet d'étude, les amibes à coquilles, font par exemple défaut dans une tourbière, ben ça veut dire que ce sol ne se porte pas finalement à merveille. Et c'est justement parce que tout est lié qu'Edward Mitchell ne cesse de défendre le vivant, cette merveilleuse biodiversité tant malmenée. Alors vous êtes sur tous les fronts, Edward Mitchell, hein, pollution plastique, pollution lumineuse, pollution des eaux, empierrement des jardins, tout de même 3, 4 ans, 11 km carrés d'espace vert qui ont été recouverts en Suisse. Hein. Autre combat de taille celui-ci, vous étiez membre du comité d'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. On reviendra tout à l'heure sur cette campagne houleuse. Hein. Pour rappel, Stéphane, il y avait deux initiatives anti-pesticides rejetées par le peuple, c'était en juin 2021. Mais d'abord, je lisais un de vos, qu'est-ce que je vais dire, coups de gueule. C'était paru dans l'Hebdo en mars 1994 sur la standardisation excessive des fromages en Suisse, en particulier du vacherin Mondor, dont la production au lait cru a disparu. Pourquoi en 94 ce coup de gueule, Edouard Mitchell?
Bon, j'ai un faible pour les fromages d'abord. J'ai grandi tout près de la frontière franco-genevoise et donc j'allais régulièrement m'approvisionner dans les marchés de France. Et puis j'ai vraiment là, j'ai découvert toute cette merveilleuse diversité gustative des fromages. Et puis ça m'énervait en fait cette cette standardisation, je trouvais ça absurde parce que on nous autorise à boire de l'alcool, à fumer des cigarettes, mais on veut aseptiser le fromage pour enlever tout risque. Alors pourquoi mettre le curseur à fond sur ce combat-là et puis laisser ces autres produits finalement en vente libre? Ça me semble aberrant. Voilà.
Parce que finalement, la propreté aseptique est finalement incompatible avec la biodiversité, c'est ça ?
Très clairement, effectivement. Il y a vraiment la diversité des goûts, des fromages, et puis la diversité en général, disons, dans notre nourriture, la diversité de, que ce soit des fruits et des légumes, tout ça c'est mis à mal par cette aseptisation, c'est en fait l'agro-business hein, qui tue tout. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça, quoi.
Oui, c'est pas plus compliqué que ça. En effet, vous adorez le fromage, vous l'avez dit, Edouard Mitchell. Il y a aussi un fromage qui est menacé. J'adore prendre cet exemple. C'est le Roquefort ou le Camembert, parce que il est produit grâce à un micro-champignon, Penicillium camemberti albinos, qui va donner un peu son duvet hein, au Brie, par exemple. Et puis aussi le Roqueforti, Penicillium roqueforti. Pourquoi ils sont en péril? Pourquoi ces espèces de micro-champignons sont aujourd'hui menacées? Ils sont finalement hyper performants, ils ont été sélectionnés à travers le monde, ils sont extraordinaires, mais pourquoi ils sont menacés et on risquerait de ne plus pouvoir manger du Roquefort ou du Brie?
Moi, c'est un peu toujours la même histoire. On veut standardiser, on veut normer les choses. Et quand on norme et qu'on standardise, on diminue la biodiversité. Donc, on rend ces organismes beaucoup plus fragiles. La biodiversité, c'est pas juste un délire d'écolo. C'est aussi nécessaire pour assurer la pérennité des espèces, la stabilité des écosystèmes. Et finalement, le fromage, c'est un écosystème aussi.
Il en va de même des déserts microbiens de notre flore intestinale.
Absolument, absolument. C'est clair que si on a de moins en moins de diversité de nourriture et de plus en plus de produits toxiques, chimiques, pesticides et autres qu'on ingère à notre, soit volontairement, soit pas, eh bien notre flore intestinale est appauvrie. Et donc ça, c'est connu aujourd'hui que cette diversité-là, elle est importante pour notre santé.
Oui, santé mentale également.
Également, oui.
Alors vous ne regardez pas, Edouard Mitchell, les micro-organismes de nos intestins, mais du microbiome du sol, vous êtes un spécialiste, mais vraiment mondialement reconnu. Ça me fait rire parce que d'une minuscule bestiole, hein, les amibes à coquilles, vous avez créé un livre, une anthologie sur ces amibes à coquilles. Pourquoi elles sont devenues votre objet finalement de prédilection?
C'est vraiment le hasard de la vie. Et c'est pour tout dire, quand je me suis embarqué dans cette aventure, c'était parce qu'un professeur canadien venait faire un séjour sabbatique à l'université de Neuchâtel et il utilisait ses amibes à coquilles comme marqueur paléo-environnemental, donc pour reconstruire l'évolution des tourbières. Et puis, moi, je m'intéressais aux tourbières. On avait fait des excursions dans le Jura, puis j'étais tombé en amour. Je trouvais que ces écosystèmes étaient absolument fabuleux. Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit... pourquoi pas? Puis je me suis aussi dit, c'est quand même un sujet bizarre. Heureusement que je ne vise pas une carrière académique parce que ça m'a l'air quand même un peu casse-gueule comme sujet. Et ben donc, la suite a bien prouvé que ce jugement-là, en tout cas, était complètement faux parce que j'ai découvert un univers absolument fascinant. De simples thermomètres, si vous voulez, ou hygromètres des tourbières, j'ai découvert que c'était des organismes qui avaient beaucoup de choses qui étaient inconnues. On connaissait mal leur diversité, leur répartition biogéographique. On connaissait mal, finalement, plein de choses sur ces organismes. Et puis je me suis vraiment passionné pour ce groupe d'amibes. Et effectivement, c'est pas une très grande communauté de personnes qui les étudient. Quand on fait des colloques tous les deux ans, on arrive à peine à 50 ou 100 personnes. Donc on va dire que je suis un grand poisson dans un petit étang.
Alors elle est comment cette amibe à coquille? Il y a une coquille, j'imagine?
Oui, alors elles ont des formes incroyables. Ça va de la soucoupe volante, vraiment, à tel point que j'ai une fois vu sur un site de créationniste une image d'une de ces amibes avec comme légende, c'est trop parfait pour ne pas avoir pu être créé par Dieu. Donc, enfin, c'était la preuve de l'existence de Dieu. Donc, ça, j'ai trouvé quand même pas mal. Il y en a qui ressemblent à des bouteilles aplaties. Il y en a même une qui ressemble à une bouteille de Granini. Elle est transparente. Elle a une forme de bouteille. Puis elle a les bosses, là, enfin, les creux, comme la bouteille de Granini. Voilà. Il y en a qui ont des formes de virgule. Il y en a qui agglutinent aussi. Ça, c'est assez incroyable. Elles agglutinent des particules minérales ou bien des déchets de champignons ou bien même des diatomées. Ce qui fait que ça donne en microscope électronique, des choses absolument merveilleuses à voir.
De l'art, quasi. Mais alors, elles sont de redoutables prédatrices, hein, c'est ça?
Ah Ah oui, effectivement. Donc elles consomment, pour les plus petites, plutôt des bactéries comme ça, d'autres des champignons, des microalgues. Elles peuvent même chasser en groupe. Elles peuvent se mettre à plusieurs pour chasser des micro-invertébrés plus grands qu'elles, comme des nématodes ou des rotifères. Donc voilà, on trouve des comportements qu'on ne comprend pas encore, parce que visiblement il y aura de la communication. Enfin, il y a encore plein de choses à étudier, quoi.
Et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes dans les tourbières ?
Alors, elles sont importantes dans les tourbières parce que, d'une part, elles sont particulièrement abondantes et diversifiées dans les tourbières. Si vous prenez une mousse de tourbière puis que vous la regardez au microscope, vous allez peut-être trouver 10 ou 20 ou 30 espèces différentes. Et puis, en plus, ces coquilles, quand l'amibe meurt, ces coquilles restent. Elles ne se décomposent pas très bien. Et donc, elles sont préservées dans la tourbe. Elles sont également préservées dans les sédiments lacustres. Et donc, si on sort une carotte de sédiments ou de tourbe, et qu'on la prépare au microscope, dans le laboratoire pour l'observer au microscope, eh bien on peut trouver ces coquilles, on peut les identifier même des millénaires après la mort de l'organisme. Et si on connaît précisément quelles sont les préférences écologiques de chaque espèce, eh bien en observant les communautés du passé, on peut ainsi reconstruire l'évolution des conditions de la tourbière.
Mais ça veut dire, Edouard Mitchell, qu'elles sont importantes pour le cycle du carbone également ?
Alors, effectivement, donc là, ce que je vous disais, ça c'est leur rôle de bioindicatrice, mais comme rôle fonctionnel, effectivement, en tant que prédatrice microbien, elles jouent un rôle très important dans le contrôle des populations, dans les flux de nutriments dans la tourbière, et même certaines ont des algues symbiotiques à l'intérieur de leurs cellules et fixent du carbone aussi. Donc on s'est rendu compte que dans les tourbières, elles contribuaient d'une façon non négligeable, en fait, à la fixation du carbone des tourbières. Or, les tourbières, c'est vraiment une de leurs principales fonctions dont on parle beaucoup, c'est leur puits de carbone, puisqu'elles accumulent année après année du carbone. Et donc, à l'échelle globale, ça représente pour 3% des surfaces de tourbières, quelque chose comme 30% du carbone qu'on a dans tous les sols.
Qu'est-ce qu'il nous reste en Suisse ? 3% de tourbières, c'est ça ?
Alors, on a détruit complètement 90% et du 10% qui reste, à peu près le 90% est fortement dégradé. Donc, un mouchoir de poche.
Donc, ça veut dire avec la disparition des tourbières, disparition donc de vos petites bestioles de prédilection, amibacoques ?
Eh oui, paradoxalement, on peut même imaginer la disparition d'un micro-organisme. Ça paraît insensé, tellement ils sont petits et nombreux, mais c'est sûr que si on a des organismes comme des amibes qui sont inféodés à des milieux très particuliers, puis que ce milieu d'âle disparaît, alors forcément que l'espèce aura également disparu, en tout cas d'un territoire donné.
Oui, mais est-ce que c'est... J'ai envie d'attention, je vais me faire tuer. Mais est-ce que c'est grave, docteur, finalement, si on a ces amibacoques qui disparaissent?
Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a la réponse philosophique, c'est pas plus grave que de se passer de musique dans la vie, par exemple. Moi, je pourrais pas, personnellement. Et puis, dans le fonctionnement des écosystèmes, si elles venaient effectivement à disparaître, ça serait vraiment un signal dramatique. Ça voudrait dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne plus du tout dans notre écosystème, dans l'écosystème considéré, mais que ce soit les sols agricoles ou les tourbières ou autres. Donc, vraiment, c'est important d'avoir une grande diversité d'organismes pour le bon fonctionnement de l'écosystème, du sol. Et puis, la diversité, elle est aussi importante par rapport aux fluctuations climatiques, notamment environnementales. Et on sait qu'elles sont de plus en plus conséquentes. C'est un peu une garantie de fonctionnement de l'écosystème. Parce que certaines années, par exemple, plus chaudes ou plus froides, ou plus sèches ou plus humides, eh bien, différentes espèces vont tirer leur épingle du jeu. Mais si toutes ces espèces arrivent quand même à se maintenir bon an, mal an, que l'année soit bonne ou mauvaise, eh bien, quand les conditions favorables pour elles seront là, eh bien, elles vont pouvoir remplir leur rôle pleinement. Puis les autres années, peut-être qu'elles seront un peu en sourdine, elles seront un peu en retrait par rapport à leur fonction dans l'écosystème. Donc cette diversité-là, elle est vraiment très très importante.
Les amibes à coquilles, alors j'allais dire aller observer, non, alors ce sera compliqué, mais je pensais aux tourbières tout à coup, dans la vallée de la Sagne, c'est ça, au pont de Martel qu'on peut en voir.
Au pont de Martel, voilà, il y a un sentier didactique au pont de Martel qui est très bien organisé avec des super explications.
Et il y a des explications sur les amibes justement ou...
Me semble
peut-être rajouter.
Il y en a, en tout cas, il y a la maison de la tourbière à côté, où vous pouvez visiter, là, je suis sûr qu'il y a en tout cas un petit peu de l'information sur les amibes. Faut que je vérifie sur le, vous me posez une colle.
Oui, et puis c'est juste un petit peu dommage s'ils disparaissent, parce qu'on pourra plus les utiliser en sciences forensiques, pour dater, par exemple, des cadavres.
Voilà. Parce que parmi la succession de choses improbables que j'ai effectivement été amené à étudier, il y a l'écologie forensique. Alors en fait, c'est assez passionnant. C'est à la fois passionnant parce que d'un côté, l'idée c'est d'essayer de dater l'âge d'un cadavre. C'est la première question que se pose la police quand un cadavre est découvert, par exemple, dans une forêt. Depuis quand est-ce que cette personne est décédée? Et pour ça, il y a différents outils comme l'entomologie forensique. Est-ce qu'il y a des larves de mouches qui décomposent le cadavre? Quelle est leur taille? Leur nombre, etc. Mais à partir de quelques semaines, toute la viande a été mangée par les larves de mouches, et puis la décomposition est beaucoup plus lente, et ça devient beaucoup plus difficile de dater un cadavre. Et en fait, en étudiant ce qui se passe sous le sol, sous le cadavre, si un cadavre est juste tombé sur le sol, on constate qu'il y a vraiment une succession de communautés. Il y a des espèces qui disparaissent d'abord, puis ensuite qui reviennent. Il y a des espèces qui sont très caractéristiques de certains pas de temps de la décomposition. Et si on documente bien ça, on peut effectivement dater l'âge d'un cadavre. Puis en plus de ça, il y a un intérêt fondamental, c'est que un cadavre, c'est vraiment une perturbation assez conséquente, surtout si c'est une grosse bestiole dans un environnement. Et donc, la majorité des espèces qui peuplent le sol d'une forêt ne vont pas supporter ça, n'aiment pas, en fait, ce traitement quand même assez extrême. Mais par contre, il y aura justement une faune, une microflore, des micro-organismes de différentes sortes qui sont spécifiquement adaptés à ces conditions. Et c'est en fait une biodiversité qui est très très mal connue, pour la simple et bonne raison que les personnes qui ont commencé à étudier la biodiversité du sol ont plutôt évité, si par hasard ils tombaient sur un cadavre, ils n'ont pas forcément pris un échantillon à cet endroit-là.
Et désormais, ces amibes à coquilles pas plus grandes qu'un grain de pollen ont leur anthologie, on le disait, leur monographie, une taxonomie parue en février dernier, un travail de bénédictin paru aux éditions Alphil. Restez avec nous, Edouard Mitchell, puisqu'après un peu de musique dans CQFD, nous évoquerons les pesticides de synthèse. Comme elle fait du bien cette chanson, Stevie Wonder à l'instant, et évidemment Sir Duke dans CQFD. Notre grand invité aujourd'hui est le microbiologiste Edouard Mitchell, professeur ordinaire et directeur du laboratoire de biodiversité du sol à l'université de Neuchâtel, grand spécialiste des amibes à coquilles, dont on parlait il y a quelques minutes, ces petits organismes essentiels à l'écosystème des tourbières. On le disait en début d'émission, vous étiez membre, Edouard Mitchell, membre du comité d'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, rejeté par le peuple en juin 2021. Pour bien comprendre votre engagement, on va remonter le temps. On va commencer avec l'après-guerre. C'est à ce moment-là que naissent les pesticides de synthèse.
Oui, en fait, les premiers ont été même synthétisés à la fin du 19e siècle. Mais effectivement, c'est après la guerre que leur utilisation s'est répandue comme une traînée de poudre, on peut dire.
Avec le plus connu, le fameux DDT.
Absolument, oui. Donc le DDT qui était présenté comme une solution miracle pour lutter contre les insectes ravageurs des cultures. Mais en fait, on s'est assez rapidement rendu compte que ça avait un impact majeur sur toute la biodiversité, en particulier aussi sur les oiseaux de proie notamment, dont les populations se sont rapidement effondrées. Et donc de plus en plus de voix se sont élevées là contre. Et il y a eu ce fameux livre de Rachel Carson, Silent Spring, Le printemps silencieux, qui a été un détonateur, quoi, qui a vraiment permis aux gens de réaliser qu'il y avait quelque chose de pas normal.
Alors quand on parle de DDT, c'est en fait c'était un insecticide.
Oui, c'est ça. C'est un organochloré. Donc c'est une famille de molécules de synthèse, donc qui n'existe pas dans la nature, extrêmement toxique avec plusieurs atomes de chlore dessus. Quand on rajoute du chlore sur une molécule organique, souvent ça la rend plus toxique. Et donc voilà, effectivement, c'est une molécule inventée par l'homme.
Et parmi les insecticides, il y a les fameux néonicotinoïdes, c'est ça?
Voilà, il y a d'autres catégories, effectivement. Donc quand on a compris la dangerosité des premiers des organochlorés, ensuite on est passé aux organophosphorés, puis ensuite on est passé aux néonicotinoïdes. Donc les néonicotinoïdes, comme leur nom l'indique, c'est des nouvelles molécules proches de la nicotine. La nicotine, c'est en fait une molécule synthétisée naturellement par le tabac, qui est en fait dont la fonction est de protéger la plante justement contre les insectes ravageurs. Et donc si vous inspirez de cette molécule et que vous lui rajoutez justement des atomes, par exemple de chlore ou d'autres choses comme ça, eh bien vous la rendez encore plus toxique. Et donc ces molécules, ces néonicotinoïdes qui ont été inventés dans les années 80 et commencé à commercialiser dans les années 90, sont en fait plusieurs milliers de fois plus toxiques que le DDT pour certains d'entre eux.
Alors là, on parlait justement d'insecticides. On reviendra sur les néonicotinoïdes. Là, on parlait d'insecticides. Dans les fongicides, donc tueurs de champignons, il y a par exemple le chlorothalonil.
Oui, absolument. Donc ça, comme son nom l'indique, chloro, il a aussi du chlore dessus, comme je disais tout à l'heure. Donc ça c'est un fongicide qui a été beaucoup utilisé pour les cultures sensibles aux maladies cryptogamiques, champignons ou autres. Par exemple, les pommes de terre, c'est une des cultures qui a beaucoup été pour laquelle ce pesticide a été beaucoup utilisé. Et donc comme on cultive beaucoup de pommes de terre en Suisse et en Europe et dans beaucoup de régions du monde, eh bien ce pesticide a été massivement utilisé. Et le problème, c'est qu'en fait, ces molécules, si elles sont très efficaces, donc à la base, elles sont conçues pour tuer, que ce soit clair, c'est ça leur cahier des charges, c'est d'être toxiques. Et puis, très souvent, elles sont aussi très résistantes à la dégradation. Donc, elles vont pas forcément se décomposer facilement. Et le pire, c'est que quand elles se décomposent, ça donne d'autres produits qui peuvent aussi être toxiques, voire même parfois plus toxiques que la molécule d'origine. Donc, vous vous retrouvez avec une ribambelle de descendants, on va dire, de la molécule initiale, dont on ne connaît toujours pas très bien la toxicité. Parce que quand on met ces molécules sur le marché, on va tester la toxicité d'une molécule. On la teste d'ailleurs d'une manière souvent qui permet, disons, son acceptation facile, son homologation facile. Et c'est seulement souvent 10 ou 20 ans plus tard qu'on se rend compte qu'on a été peut-être un peu trop laxiste dans la manière de tester la dangerosité de ces molécules. Mais donc voilà, on a en Suisse quelque chose comme 300-350 de ces molécules qu'on appelle des principes actifs qui sont utilisés. Au niveau mondial, c'est plutôt quelque chose comme 500. Donc ça fait beaucoup de molécules différentes qui toutes se dégradent en peut-être des dizaines d'autres molécules. Donc vous imaginez le mélange que ça peut faire dans un environnement, parce qu'évidemment on ne cultive pas des patates année après année, on fait une fois des patates, une fois du maïs, une fois autre chose. Mmh. Et à chaque fois, pour chaque culture, il y a une série de pesticides différents qui sont utilisés. Donc au final, ça donne un énorme mélange. Mmh. À des concentrations diverses.
On peut rajouter encore les herbicides qu'on n'a pas évoqués.
Exactement. Ouais, voilà. Ouais, donc ça. Pesticides, c'est le terme générique pour tout inclure. Et puis là dedans, il y a des insecticides contre les insectes ou les invertébrés en général, des herbicides contre les plantes, des fongicides contre les maladies fongiques, etc.
Oui. Et lorsque vous dites Edward Mitchell, en Suisse, il a à peu près 300 molécules. Si on reste dans les herbicides, par exemple, le glyphosate, c'est une molécule.
Voilà, c'est une de ces molécules qu'on appelle le principe actif. Ce que les gens connaissent bien, c'est le Roundup. Le Roundup, c'est un produit commercial qui contient du glyphosate, mais qui contient aussi d'autres molécules. Et certains chercheurs nous rendent attentifs au fait qu'en fait, c'est souvent pas le glyphosate le plus dangereux, c'est peut-être les autres molécules. Donc, on focalise beaucoup notre attention sur le glyphosate, et puis en fait, il y a d'autres molécules dans ce mélange qui sont peut-être, en tout cas pour certains organismes, encore plus toxiques.
Alors, je rappelle quand même que vous, les sols, vous les connaissez bien, puisque vous êtes directeur du laboratoire à Neuchâtel sur la biodiversité des sols. Et je voudrais qu'on remonte, il y a une dizaine d'années, en 2015, il y a une grande étude de synthèse, justement, qui paraît sur l'impact de ces pesticides sur la nature. Ça vous a un peu ébranlé, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne sachiez déjà avec cette grande synthèse ?
Ben, disons que jusqu'à cette époque-là, je savais bien que les pesticides étaient problématiques, qu'il y en avait, etc. Mais j'avais quand même assez confiance dans nos autorités, pour tout dire. Je pensais que la pesée d'intérêt avait été bien faite et que c'était un peu un mal nécessaire. Et puis je pense que c'est un petit peu l'avis de beaucoup de gens, finalement, quand on parle de cette thématique-là. Et en participant à cette synthèse bibliographique et puis en discutant, en creusant vraiment plus le sujet, ben cette certitude-là, elle s'est complètement ébranlé. J'ai réalisé qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, la manière dont les produits sont homologués, les tests, la manière dont on teste la dangerosité de ces produits n'est pas du tout acceptable, n'est pas suffisante pour garantir vraiment qu'on protège l'environnement et la santé publique, parce qu'il n'y a pas que les papillons et les abeilles, il y a aussi notre santé à nous. Mmh. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus choqué. Je me suis dit, mais bon sang, on est en train de donner en fait un espèce de chèque en blanc à l'industrie agrochimique pour produire des produits, pour les utiliser massivement. Et nos autorités, eh bien, nous ont laissé tomber. On laissait tomber l'environnement et on laissait tomber la santé publique.
Mmh. Et donc, vous avez été vraiment le porte-parole de cette initiative contre les pesticides de synthèse. Mmh. Je le rappelle, rejetée par le peuple. Alors, comment comprendre que nous ayons été si naïfs?
Bah, il faut bien voir les forces en présence. Bon, d'abord, quand on veut changer un système, on a toujours une bataille difficile, hein, parce qu'il faut d'arriver à prouver ou démontrer vraiment aux gens que c'est absolument scandaleux, que ça va pas du tout, qu'il faut, soutenir le changement. Donc ça, c'est toujours un combat qui est difficile. Et puis, en face de nous, on avait, vous imaginez les enjeux économiques, la puissance de l'industrie agrochimique. Et puis, ben, faut bien aussi le dire, sous la coupole et au Conseil fédéral, on a une large majorité qui est en faveur de l'utilisation de ces produits et qui ne se soucie finalement pas tant que ça réellement aussi bien de l'impact sur la santé humaine, sur la biodiversité et puis même sur la fertilité des sols puisque ça affecte toute la biodiversité, ça va également avoir un impact sur notre capacité ou la capacité des sols à produire notre nourriture.
Oui, mais il y a peut-être aussi la crainte qui s'est exprimée de la part du peuple, hein, qui a effectivement rejeté majoritairement cette initiative, la crainte de se dire que si on abandonne totalement les pesticides, mon Dieu, qu'en est-il du rendement finalement? On aura peut-être moins à manger, donc ça fait peur ça aussi.
C'est clair, ça faisait partie du débat. Et puis alors, ça dépend beaucoup des cultures. Il y a des cultures qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des cultures pour lesquelles en fait on peut très bien se passer de ces pesticides, ça n'a aucun impact sur les rendements, et d'autres qui sont plus fragiles. Alors si elles sont plus fragiles, en partie ça peut être dû à la culture, tout simplement le fait que certaines plantes sont plus difficiles à faire pousser parce qu'elles sont plus attractives peut-être par exemple pour des insectes ravageurs, mais c'est aussi beaucoup lié aux variétés. On a sélectionné depuis l'après-guerre, depuis qu'on a finalement ces molécules pour protéger les cultures, eh bien on a sélectionné des variétés qui n'étaient pas naturellement résistantes. Et donc, forcément qu'elles ont besoin de cette béquille chimique pour bien produire. Donc, c'est clair que maintenant, si on repense ce système, eh bien il va également falloir repenser les variétés, voire même le type de culture que l'on favorise. Dans la quantité de nourriture produite, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Quelque chose comme un tiers de la production est gaspillé. Et puis, bon, il y a aussi les modes, notre régime alimentaire. Hein. Disons, on consomme beaucoup trop de viande en Suisse. Alors, les États-Unis en consomment encore deux fois plus que nous, mais en Suisse, c'est quelque chose comme un kilo par personne et par semaine. Je pense que si on en consommait 3-4 fois moins, on serait pas plus malheureux. Et puis là, on pourrait nourrir beaucoup plus de monde.
C'est ça.
Je repensais juste à l'initiative. C'est-à-dire qu'il y a aussi une chose vraiment importante. C'est-à-dire que le porte-parole des multinationales et de l'agrochimie a vraiment été le monde paysan. Et donc, évidemment, on est sensible à ce discours des paysans. Je voudrais qu'on revienne sur une disparition. J'ai presque envie de dire une disparition silencieuse. En 30 ans, 70% de la biomasse des insectes a disparu en Europe. Quelles conséquences, finalement ?
Eh bien, alors déjà, c'est triste, à la base. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut dire. Je défends toujours le principe que la biodiversité a le droit d'exister et puis que c'est pas parce qu'elle a une fonction qu'il faut la protéger, c'est parce que simplement elle est là, elle est belle, elle existe. Mais effectivement, une bonne partie de cette biodiversité nous rend des services, en particulier les pollinisateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelque chose comme 85% de la diversité de notre nourriture dépend de pollinisateurs. Donc, s'il n'y avait pas de pollinisateurs, on pourrait toujours manger du maïs et du blé parce qu'il n'y a pas besoin d'abeilles pour les pollinisés, mais on aurait beaucoup moins de fruits, de légumes, etc. Et donc, c'est pas que l'abeille domestique qui va polliniser ces plantes, mais c'est toutes sortes d'abeilles sauvages. En Suisse, par exemple, il y a quelque chose comme 650 espèces d'abeilles sauvages. Donc, c'est une énorme diversité, et il y a d'autres pollinisateurs que les abeilles qui nous rendent également ces services. Donc voilà, donc cette diversité-là, elle est aussi importante pour notre diversité de nourriture, mais également économiquement, parce que finalement, ça se traduit aussi en des chiffres, cette fonction écosystémique-là, comme on l'appelle.
Non, mais on pourra polliniser au pinceau, comme en Chine, ou avec des drones.
Voilà, exactement. Donc, ouais, non, il ne faut pas sous-estimer l'inventivité de l'humain pour compenser ce genre de problème, mais ça serait quand même un peu triste.
Vous parlez, par exemple, là, des insectes, la pollinisation, et je pensais au discours, en fait, à l'époque, où on disait, mais non, les néonicotinoïdes, c'est pas si grave, c'est le varroa qui tue nos abeilles domestiques, ce qui est totalement faux, puisque les néonicotinoïdes tuent également les abeilles sauvages, qui,
absolument,
elles, n'ont pas de varroa.
Exactement. Exactement. Donc, je crois qu'il y a quelques espèces, comme quelques bourdons peut-être qui peuvent en avoir aussi, mais en tout cas, comme je disais, les 650 espèces, l'écrasante majorité n'ont pas de varroa. Donc c'est un argument fallacieux, comme très souvent d'ailleurs.
Edouard Michel, le tableau que vous nous dressez aujourd'hui dans CQFD, il est finalement, peut-être, on peut se dire, le même qu'il y a 60 ans. Écoutons un extrait du film d'Alex Mayenfisch, sorti il y a 10 ans. Au même moment, il y avait la COP21 de Paris sur le climat, c'était déjà il y a 10 ans. Son documentaire, Un besoin pressant, qui relate à travers de nombreuses archives des années 60-70, l'histoire de la conscience écologique en Suisse. On écoute un extrait.
En l'an 2000, l'eau sera, on aura mis des produits chimiques dedans pour enlever tout ce qui est mauvais, tout, alors l'eau aura un sale goût.
Je crois que dans quelques dizaines d'années, on parlera de notre époque comme de la civilisation de l'ordure.
Les problèmes primordiaux ne sont pas de savoir si on est de droite ou de gauche, mais c'est de savoir si on va pouvoir continuer à vivre sur notre planète.
Si on n'employait pas de pesticides, le tiers de l'alimentation du monde serait perdu. Il faut donc penser que ces pesticides, parmi les autres pollutions, sont indispensables à l'agriculture.
Mais alors là, c'est complètement faux. Vous pouvez venir regarder, contrôler les résultats. Nous obtenons plus que tous ceux qui font avec la chimie, mes amis. Nous déséquilibrons chaque fois un peu plus lorsque nous travaillons qu'avec des engrais chimiques. Parce qu'il manque à la terre l'humus. L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès.
Extrait du remarquable documentaire d'Alex Mayenfisch qui s'appelle donc Un besoin pressant. Réaction, Edouard Michel, ça fait finalement 60 ans qu'on alerte.
Absolument. J'ai beaucoup aimé évidemment le dernier témoignage. un cri du cœur qui est tout à fait vrai. C'est quand même désarmant de penser qu'on arrive à polluer l'air, qu'on arrive à polluer l'eau, qu'on arrive à polluer les sols, qu'on se fiche finalement de la pollution des nappes phréatiques. C'est un de nos plus grands trésors en Suisse. C'est insensé. C'est absolument insensé ce qu'on est en train de faire.
Mais en fait, il faut changer de regard. C'est-à-dire que on essaie toujours d'optimiser, d'être performant, et finalement, le vivant, ben, il fait tout le contraire. Hein. Lui, il va bricoler, il gaspille un peu, mais surtout, ben, il s'adapte à merveille à l'environnement. C'est finalement la robustesse qu'on devrait mettre en avant, et non pas la performance.
Absolument. Et puis d'ailleurs, effectivement, c'est ce que font certains agriculteurs qui font de la permaculture, qui cultivent par exemple, qui plantent plusieurs variétés, par exemple de pommes de terre dans un champ en même temps. Et puis, ben voilà, en sachant pas de quoi quel sera le climat de l'année à venir, eh ben si on en met plusieurs différentes, il y a plus de chances de garantir une production. Alors on n'aura peut-être pas la production maximale qu'on aurait eu si on avait choisi la bonne variété pour la bonne année, mais comme on n'a pas cette information, eh bien c'est peut-être effectivement le genre de pistes qui sont intéressantes. Parfois, on cultive aussi deux espèces ou deux variétés de cultures différentes ensemble parce qu'elles s'entraident. Par exemple, une repousse les ravageurs de l'autre ou ce genre de choses. Ça, c'est l'agriculture qui est vraiment intelligente. Et puis, pendant cette campagne pour l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, j'avais vraiment la conviction que si on acceptait cette initiative, en fait, ça pousserait vraiment à accélérer la recherche dans une agriculture culture vraiment innovative, intelligente, et ça en plus ça aurait donné un avantage à la Suisse parce qu'on aurait été à la pointe de l'innovation et on aurait pu ensuite vendre le fruit de notre recherche aux pays qui nous entourent.
Alors on l'entend, Edouard Mitchell, hein, vous êtes un homme de conviction, un scientifique engagé. Hein, vous êtes sorti finalement de votre zone de confort. Hein, on aime bien dire ça, hein, votre laboratoire pour vous frotter au débat public. Et à ce propos, je voudrais qu'on écoute le glaciologue Jean-Baptiste Bosson, interviewé en avril dernier par Lucille Solari pour Prise de Terre. Elle lui demandait s'il était un scientifique militant.
Je déteste ce mot, je m'en éloigne en permanence, on se combat, en fait on se fait caricaturer, on fait de la science au plus haut niveau, on responsabilise les gens, on responsabilise les citoyens, les acteurs publics, les acteurs privés. En fait on est dans le juste et on se fait caricaturer de militants. Moi j'ai quitté le monde académique aussi pour ça, parce que face à cette tentation...
Peut-être parce que c'est le mot lui-même qui est dévoyé par ses opposants. Alors que le combat est juste.
Les lobbies pétroliers, miniers, ou du pesticide, ou du glyphosate, qui détruisent le vivant, on ne dit pas qu'ils sont militants. Et on les laisse travailler tranquillement. Et nous qui travaillons pour l'intérêt général, le commun, sans argent, hein, parce que c'est des projets, on est des crevards, hein, on n'a pas d'argent, on est très mal payés. Ben, nous, on est des militants. C'est le monde à l'envers, hein. On n'est pas des militants. On est des gens éveillés, responsables. Poser une question si une œuvre est militante, une recherche scientifique est militante, c'est déjà contribuer à ce grand discours de faire croire que les gens qui se battent pour l'intérêt général, ils sont pas dans le juste. On est complètement dans le juste, c'est les gens qui ne se battent.
Ou qu'il s'agit d'une idéologie. C'est ça,
oui,
l'idée.
Oui, mais l'idéologie, c'est la seule idéologie qu'on a, c'est celle de défendre le vivant, c'est celle de respecter les générations futures. Enfin, quelle honte de dire que, enfin, mais regardez, moi j'ai quitté le monde académique pour ça, parce que le monde académique ne sait pas répondre à ça, du coup, ne prend pas beaucoup part au débat public. Dans le papier de Nature, on demande la protection des glaciers dans le monde, ce qui est la base quand on connaît leur importance. Moi, mes co-auteurs scientifiques que j'adore, je me suis bagarré contre eux parce qu'ils disaient c'est trop politique de dire qu'il faut protéger les glaciers. Donc nous, on est juste là pour dire que tout s'effondre, que tout va mal. Par contre, quand on met les solutions basées sur la science, basées sur le temps long, sur la réflexion, on dit qu'on est politique, mais on a perdu le sens du politique qui est de faire commun, de mettre les bonnes décisions sur la table, de penser à l'intérêt général. Donc moi, je revendique, tout ce qu'on fait est ultra politique. Donc on est des citoyens engagés, c'est tout.
Alors, qu'est-ce que vous êtes, Edouard Mitchell ?
Alors, un citoyen engagé, tout à fait, un chercheur engagé aussi. C'est vrai que le mot militant, il a une connotation comme ça péjorative, mais je vois pas pourquoi. En fait, je pense que c'est aussi quelque part c'est noble. Moi, je revendique de militer pour préserver cette biodiversité. Je le fais par ma propre conviction. Je le fais aussi parce que j'ai des enfants. Je le fais aussi pour mes étudiants, pour aussi leur montrer que oui, c'est aussi notre rôle d'académicien de prendre part à ces débats, de pas simplement se cacher dans son labo et puis publier ses résultats. Je pense que c'est notre responsabilité. J'ai la chance d'avoir un poste qui me permet d'avoir une certaine reconnaissance. On m'accorde un certain crédit. Ben, je pense que c'est aussi mon devoir d'utiliser ce crédit et cette reconnaissance pour faire passer des messages que je que je juge pertinent.
Mmh. Vous faites partie, Edouard Mitchell, du collectif Scientifique en Rébellion, dont la branche francophone a été créée en 2020. Créée face à la crise écologique. Finalement, la rébellion, la désobéissance civile, c'est la seule voie possible?
Je sais pas. Vous savez, j'ai un peu l'impression que, de toute façon, tout est futile. Parfois, on peut penser ça. On essaye, on fait ce qu'on peut. On essaye différentes choses, et puis en espérant qu'il y ait de temps en temps des choses qui fonctionnent. J'ai pris l'habitude de dire que d'étudier en fait les pesticides dans l'environnement, l'effet des pesticides, c'était un peu une insulte à l'intelligence humaine, parce qu'en fait, à la base, ces molécules sont créées pour tuer, pour nuire aux vivants. Donc, s'il faut 20 ans d'études pour prouver qu'un néonicotinoïde fait du mal aux insectes, c'est quand même assez affligeant, quoi. Ils ont été conçus pour ça, il ne faut quand même pas s'en étonner.
Merci beaucoup Edouard Mitchell, citoyen et chercheur engagé, vous le disiez vous-même, avec des combats et fort de vos recherches évidemment. Je rappelle que vous êtes microbiologiste, chercheur, professeur ordinaire et directeur du laboratoire de biodiversité du sol à l'université de Neuchâtel, invité par Sarah Dirène.
De la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 5h.